c'est pas officiel, je crois. Donc c'est encore des journalistes qui ont lancé ça, à mon avis, non?
C'est vrai que je suis abattu, je suis très triste. Ça fait très mal, mais je vais pas m'arrêter. Ouais, de jouer au football, je serais prêt à même aller au Pôle Nord.
RMC, Football Show.
J'ai essayé Nietzsche, j'ai essayé Kant, etc. Bon, j'ai essayé Socrate, etc. J'ai essayé. Bon, j'ai pas réussi.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
À thème, il a mon portable. Il m'appelle
Gilbert Brébois.
Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit comme tous les soirs. L'after est en direct, bien sûr, après cette soirée d'Europa League. L'after, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Nous sommes sur RMC, nous sommes sur RMC Sport News, évidemment, avec ce soir Daniel Riolo. Daniel, bonsoir.
Salut les amis.
Avec Jérôme Rotten. Jérôme, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Tout à l'heure, Eric Dimeco va nous rejoindre. Il est à Séville ce soir. Il a été le porte-bonheur des Rennais. Fred Hermel également sera avec nous dans quelques instants. Et oui, ça y est, c'est officiellement terminé, messieurs, dames. Depuis 15 ans, l'after vous dit que Rennes est un club qui a la chkouboun, quoi, un peu la loose, collé aux fesses. Et ça y est, c'est fini. Enfin, c'est fait. Ils ont fait leur exploit qui rentre dans l'histoire. C'est la première fois que Rennes y arrive. Bravo Aurélie, bien sûr, on va en parler toute la soirée jusqu'à minuit. Le 32-16 est ouvert, ainsi que le hashtag RMC Live et Direct Studio sur l'appli gratuite RMC Sport. Les trois points de Jérôme et de Daniel, tout de suite, jingle.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Daniel, tes trois points.
Franchement, c'est très compliqué de trouver trois points, tant ce match, c'est joué beaucoup dans l'émotion. Je vais même pas parler de la tactique des Rennais, parce que à un moment j'ai cru comprendre et puis plus trop comprendre. Ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est le cœur qu'ils ont mis dans ce match. Ils l'avaient annoncé, et franchement, l'annoncer, c'est une chose, le démontrer, c'en est une autre. Donc le courage et le cœur en un. Honnêtement, en point 2, il faut insister, le fait d'y avoir cru. Ne serait-ce que ça, je trouve que franchement c'est formidable. Il y avait tout pour, au vu du match aller, y aller. En plus, avec l'histoire du club, peut-être ne pas y aller pour jouer à 100%. Et eux, ils l'ont fait, donc c'est génial. Et le troisième point, c'est qu'en fait, Rennes, ce club traditionnellement de losers, a écrit ce soir, je pense, la plus belle page de son histoire.
Exactement.
C'est un club qui a une pauvre histoire. Et ce soir, c'est génial ce qui leur arrive. Et je suis super content pour les supporters rennais, évidemment pour Jérôme, que j'ai à peine croisé, parce que je pense que jusqu'à
Jérôme,
la dernière seconde.
Le producteur, il touche plus terre, là.
Mais jusqu'à la dernière seconde, évidemment, il a dû se dire, il nous est tellement arrivé de merde dans les dernières secondes que ça peut arriver. On est Rennes. Et, j'ai à peine eu le temps de voir sa tronche joyeuse, et j'imagine qu'il l'est, quoi. Et c'est très bien.
Jérôme, tes trois points.
Alors le premier, exploit, parce que c'est un véritable exploit, ce qu'a réalisé Rennes, surtout par rapport au match aller, ce qu'on avait vu. Et moi, je dis chapeau, vraiment, parce que déjà, comme tu l'as dit, l'histoire européenne, elle est pauvre de Rennes et même du football français, et ils rentrent dans les exploits du football français, mine de rien, donc bravo à eux. Le deuxième, ça rejoint, c'est incroyable, on s'est pas parlé avant, ce que disait Daniel, c'est y croire. Ça doit être un exemple pour le foot français, ces exploits-là. Alors, c'est trop peu réalisé, mais le fait juste d'y croire, ce qu'ils ont mis en place, ce que Stéphane a mis en place, ce qu'ils ont réussi à faire douter une grande équipe à domicile comme le Betis Séville, même si c'est pas la meilleure équipe espagnole et la meilleure équipe européenne.
Je sais pas combien de fois pendant le match, en regardant ce qu'ils faisaient, vous êtes dit j'espère que ça va donner des idées à l'OL, quoi.
Exactement.
Moi, j'ai fait plein de... À chaque fois, je faisais le parallèle. Je disais, Lyon, ça a plus de possibilités que Rennes. Ok, le Barça, c'est plus fort que le Bétis, mais le Bétis a battu le Barça. Donc, voilà, quoi.
Je fais mon troisième point.
Allons-y.
Ouais.
Vas-y.
Je fais mon troisième point.
Oui, c'est une soirée un peu spéciale, quand même. Attends, la fête de Rennes, excuse-moi, j'en peux plus.
Et je voulais mettre en avant... t'as raison de parler de Lyon, parce que la comparaison avec Lyon, elle est intéressante. Même par rapport à ce qu'ils ont fait contre Barcelone, où moi, je reprochais plein de choses dans le système qu'ils voulaient mettre en place. Là, Stéphane, ce qu'il veut mettre en place, c'est essayer d'harceler le porteur, rester assez haut, le bloc haut, avec des joueurs à dominance technique dans le milieu de terrain. André, naturellement, était suspendu, donc il a mis, je voulais ressortir Bourigeaud. qui est un poste inhabituel pour lui, même si des fois en cours de match il rentre dans l'axe.
C'est un joueur mais, de, Grenier, c'est un bon joueur de ballon et un joueur de devoir en même temps.
Et ces deux joueurs-là, Grenier et Bourigeaud,
RMC Rugby, le tournoi destination continue pour le 15 de France.
Donc voilà. Et merci d'avoir mis un jingle dans
l'oreillette. Non mais ce soir tout le monde est un peu bouleversé parce qu'il y a Ferenc. Donc
je crois qu'on a beaucoup de relais dans notre régie. Ils sont en train de se mettre minables au cidre là. Donc on est mal barré jusqu'à minuit.
Ah ouais, là.
Bon,
et c'est marrant parce que
et toi,
moi mes trois points,
bah oui,
je suis pas préparé, j'ai pas eu le temps. Donc j'accueille Guillaume.
Non mais c'était prenant, attends, c'était prenant comme soirée. C'était.
Ah top, Ben Arfa en direct avec Florent Moussi. Ah ben non, dans quelques instants. Non, c'était il y a quelques instants. On y va.
On est vraiment très heureux. On est très heureux pour le club. On est très heureux pour cette ville, pour la Bretagne. On sait que c'est la première fois de leur histoire que ils vont vivre des moments comme ça. Donc on est vraiment très content de leur donner ça. Et puis nous on est vraiment très content. On a fait preuve de grande personnalité aujourd'hui. On avait un plan. Le coach nous a transmis un plan pour contrarier cette équipe. Je pense qu'aujourd'hui on a eu beaucoup de possession de balle malgré qu'on a été ici. On a répondu présent mentalement et puis collectivement. Et aujourd'hui on peut être vraiment très heureux de cette victoire et on peut savourer ça avec tout le monde.
Voilà, Atem Ben Arfa. Alors j'aimerais quand même, avant d'accueillir Guillaume, revenir un instant sur l'after de la semaine dernière. Après le 3-3, faut bien reconnaître que l'after était ultra pessimiste, ouais. Et logiquement, pour la qualif de Rennes.
Ouais, je crois que j'avais dit 5%, c'est la place du miracle.
T'avais même fait mieux. T'avais fait un pari.
Je crois que t'as fait mieux.
Ah non.
Oui, t'avais fait un pari.
Je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas exact.
Qu'on va réécouter si tu veux bien.
Moi j'aimerais
bien.
Le coup de la mallette.
Écoute bien.
Si tu mets, tu dois mettre tant d'argent sur une équipe. Non, il y a en aucun cas je mets sur Rennes.
Évidemment.
Non, mais
ah, le scénar avec Rocco Siffredi qui sonne chez toi.
Ouais.
Ding ding, Rocco Siffredi.
Non mais dans le
où
doute,
est votre femme. Alors vous avez le choix entre.
Mais
vous devez miser sur une des deux équipes ou sinon votre femme va passer la nuit avec moi. Sur quelle équipe vous misez?
Ouais.
Bah, sur le Bétis.
Non, mais oui, évidemment qu'on va miser sur le Bétis.
Je pense qu'il y a peut-être Rocco qui va sonner chez Daniel. Ouais. Et lui qui vient.
Non, mais pour le rassurer, Daniel, est-ce qu'on pourrait appeler? Il a le droit.
Là,
à
Daniel
appel.
Est bloqué dans l'after jusqu'à minuit, donc il peut se passer des trucs chez Daniel.
Mais Daniel. Attends.
Daniel, quand tu parles.
Ce qu'il faudrait quand même dire que, le coup de la mallette, ça vaut pour tout le monde. Le jeu, il vaut pas tellement. Qu'est-ce que vous faites? En fait, le jeu de la mallette, c'est qu'est-ce que vous faites si vous êtes dans ce cas de figure sur qui vous misez? Rappelle-toi, c'était ça.
Ouais.
Et on aurait tous, évidemment, misé Calif Bétis.
Je pense que là.
Arrête, misé Calif Bétis.
J'hésite.
Rocco, il est chez
Jérôme,
toi, je te dis.
Jérôme avec moi.
Par contre, non.
Ding, ding,
ding, ding. Madame Riolo. Je viens vous faire la fête.
Je suis là. Mais vous auriez tous, c'est comme moi. Donc après, il serait passé chez vous. Bon après il serait passé chez vous un peu moins en forme.
Tu passeras au magasin, au sex shop là, avant de rentrer à la maison parce que je pense que tu vas être ridicule après.
Guillaume est là au 32-16, supporter Rennais. Salut Guillaume.
Salut les gars.
Bon
salut,
comme quoi, faut Jérôme, jamais faire de pari débile, hein. Tu vois, ça peut toujours se retourner contre toi.
Ah c'est exceptionnel, mais je sais pas ce qui est le meilleur, soit la qualif en 8e ou le fait de donner tort à Monsieur Riolo.
Les deux.
Oui si.
Alors, prends la qualif en 8e parce que je pense qu'on n'était pas beaucoup à y croire,
ouais,
hein, tu
vrai,
sais.
Ah ouais, non, je suis d'accord.
Et franchement, on est quand même super content, quoi. C'est incroyable ce qui s'est passé.
Ah ouais, non, mais c'est cool. Et franchement, on est tellement poissard que même jusqu'à la 93e, je me suis dit, on a un but contre son camp, une merde. Hein. Oh là là.
Est-ce que tu pensais ton équipe avoir ce caractère-là?
Non, clairement, non.
Bah ouais.
J'ai allumé la télé pour regarder le match avec. Ah, c'est moche, mais avec un petit sentiment de défaite, parce que vu comment on s'était fait bouffer à l'aller, je me suis dit, c'est impossible, ou alors sur un but à la 89e en contre-attaque. Mais je voyais vraiment pas la qualif. Et je veux revenir sur une décla que t'as bien moqué la semaine dernière, celle de Ben Arfa après le match. Bon, on est d'accord, elle était pourrie, mais je pense que réellement, si on avait gagné 3-2 ou 3-1 chez nous, je suis pas sûr qu'on aurait abordé le match de la même manière.
Oui, rappelons que la semaine dernière, Ben Arfa, il fait un match très moyen à l'aller, on est d'accord, Guillaume.
Bah, comme l'ensemble des Rennais.
Ah, bah, pas très moyen, catastrophique.
Catastrophique, et à la fin du match, il dit, on aura 11 guerriers au retour.
Non.
Attends, mais pourquoi est-ce que...
Excusez-moi, les amis, moi, je veux bien ce truc-là, mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, pour faire un bon match retour, enfin, c'est irrationnel, ce que vous dites.
C'est sûr,
c'est irrationnel. Oui, non, mais les propos de Ben Arfa, lui, c'est logique. que comme j'avais expliqué, tes joueurs, évidemment que tu y crois à 100% et évidemment que tu dis que tu vas être 11 guerriers. Après, nous on n'est pas obligé de croire que c'est possible, c'est à eux de nous donner tort et c'est génial quand ça arrive, on est super heureux ce soir. Mais lui l'idée de ah bah heureusement qu'on n'a pas gagné 3-2 ou 3-1 parce que sinon on aurait été déconcentré. Bah non.
Excusez-moi.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Attends,
ça
on excusez-moi, je crois qu'on est en direct de chez Daniel. Ah.
Bonjour madame, je suis le plombier. Moi, je vais vous réparer la fuite.
Allez-y, rentrez. Je suis pas dans le genre farouche, moi.
Bon, pardon, c'était un petit duplex en direct de chez Daniel. Attends, on revient.
Il paraît qu'elle est déjà en nuisette.
Oh, croco, la nuisette.
Excuse-nous, Guillaume.
La nuisette, elle va vite dégager. Il va y avoir trois trous dans la nuisette.
Bon, revenons à Ben Arfa. Et à la suite.
Le jeu de la mallette, on le fera pour Lyon aussi. On verra sur qui vous allez miser.
Moi, je vais être sur Lyon. Alors là.
Vas-y, non, mais ça n'empêche pas que tu peux perdre.
Non, moi, je voulais revenir sur Ben Arfa. Moi, je lui en voulais à Thème parce que. Alors après, à chaud, c'est toujours pareil. C'est compliqué d'avoir du recul. Mais sur l'ensemble des joueurs où t'as le droit, même avec un résultat qui était pas catastrophique, hein, même s'ils se sont mis en difficulté avec ce but à la fin, le 3-3, mais t'as le droit de dire. Écoutez, on est passé à côté de notre plan de jeu, ça a pas fonctionné, on a pris un bouillon. On s'en sort bien avec ce 3-3 mine de rien, même si le but vient à la dernière minute, l'égalisation. Mais sur le match retour, il va falloir qu'on fasse beaucoup mieux. Moi, à travers ces déclarations-là, ce que je regrettais sur le match aller, c'est qu'ils n'avaient pas ce recul-là et que t'as l'impression que c'était pas mauvais résultat et que c'était même mieux pour le match retour. Non, c'était pas mieux. En effet, je pense qu'ils ont réussi à faire leur autocritique, et ça c'est Stéphane qui a été bon, c'est-à-dire d'analyser le match, et à mon avis il les a mis devant leurs responsabilités en disant écoutez les gars, là on est passé à côté, là si on refait ça techniquement, juste techniquement, je parle même pas de la tactique, techniquement et même physiquement, si on refait le même match, mais on va en prendre 4.
Mais excuse-moi, retournons 2 secondes, sur le match de ce soir, sur je sais pas, au moins 60 minutes, et Eric disait ça aussi dans son commentaire, et j'étais d'accord avec lui, le pressing à 4 devant, honnêtement, il était fait n'importe comment. Sur 2 passes, ils étaient tous dans le vent à chaque fois. Ouais. C'est que le Betis a jamais réussi à réellement concrétiser ses phases, ses phases de domination, parce que leur pressing à 4 où Grenier et Bourigeaud avaient un mal fou à suivre parce qu'il fallait qu'ils compensent et ils ont fait sans arrêt, comment on dit ça, là, les essuie-glaces, c'était un risque monumental. Sauf que il y a des soirées comme ça qui se goupillent parfaitement bien parce que ta corner bute de la tête, bah ça peut arriver même une équipe de nationale, Ligue 1, ça peut arriver, donc c'est la phase arrêtée. Le scénar, c'est totalement super bien goupillé, mais leur phase de pressing, moi j'ai préféré à la limite quand à un moment je me suis dit essaye de sortir un ou deux attaquants, limite il vaut mieux essayer de mettre le bus parce que eux, ils s'empêtrent un peu, ils arrivent pas trop, mais arrêtez de vouloir faire ça parce que sur 2 passes à un moment c'était des plots, il est passé, ça fait ding 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 ding, sauf que derrière la défense elle a tenu béton et le Betis a pas réussi à concrétiser sa phase de domination. Mais le pressing rennais, je dirais pas que c'est ce qui a le plus marché. En fait, ce qui a le plus marché, c'est le cœur qu'ils ont mis dans ce match.
Non, mais bien
et
sûr.
Le fait d'être à bloc à 100% tout le long.
Après,
quoi.
Moi, je suis d'accord avec toi que peut-être que par moment, ce milieu terrain se faisait transpercer. Mais il faut reconnaître une chose, c'est qu'ils ont jamais lâché. Même quand ils se faisaient transpercer, ils faisaient beaucoup d'efforts. Et comme tu dis, les Suisses, c'est pour ça que je mettais dans mon troisième point Bourigeaud et Grenier, parce qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup d'efforts et que ils ont des fois couru dans le vide, comme les deux Lyonnais, Ndombele et Aouar. À la différence, c'est que quand Rennes a eu le ballon, et ils l'ont eu beaucoup de fois, mine de rien, sur ce match. Parce que quand tu regardes les stats, c'est 55-45. En possession, c'est une vraie performance contre cette équipe.
Oui, bien sûr, d'accord. Bien sûr.
Donc en ayant le ballon assez souvent, ils l'ont bien utilisé, mine de rien. Techniquement, ils ont été propres. C'est pour ça que je voulais les mettre en avant. Parce que c'est pas toujours des passes qui cassent les lignes, comme on dit, mais c'est des passes intelligentes. C'est-à-dire des fois latérales, des fois droit devant, des fois des transversales, des fois ressortir derrière pour essayer de les aspirer. Et ça, ils l'ont assez bien fait quand même sur toute la première mi-temps, jusqu'à la 40e minute et cette réduction du score de la part du Betis, parce que la fin de la première mi-temps a été compliquée.
Même le début de la deuxième, c'était
oui, oui,
et pour parler de Ben Arfa...
Guillaume veut en passer une, s'il vous plaît.
Ben Arfa, à un moment, les Rennais jouaient à 10. Mais qui pressait plus, il faisait plus rien, il y arrivait plus. Tu sais, t'attendais qu'un ballon lui arrive et sur une phase de compte, genre élimine un mec et met en profondeur. Parce qu'après, quand t'as Sarr, c'est quand même un atout. C'est pour moi probablement le meilleur joueur de cette équipe, enfin dans ce qu'il peut créer offensivement. Et voilà, t'attendais ça. Mais le fait que Stéphane se dise, ok, Atem, je vais te garder, les autres vont se défoncer. Toi, je vois bien que t'as un peu la charrette, t'y arrives pas trop. Mais bon, sur le but, le deuxième, le but du, de Ounou,
c'est lui qui fait le décalage.
C'est lui qui fait le décalage avec son pied droit, alors que t'as l'impression qu'il démarre l'action un peu lentement. C'est une soirée qui a super bien tourné. Je souhaite à Rennes qu'il y en ait beaucoup qui tournent comme ça, mais bon, tu peux pas trop jouer à 10 quand même. Hein.
Guillaume, à toi.
C'est un des reproches que je fais d'ailleurs à Julien Stéphane, c'est que Ben Arfa, c'est pas un mec fiable. C'est pas un mec sur qui tu peux compter pour une saison complète. C'est un mec, quand t'as les caméras, que t'as le monde qui le regarde, il peut faire les efforts, il peut être bon. Tu prends son match contre Reims dimanche, c'était une catastrophe. Si vous vous rappelez, au match aller, le premier but, il vient de lui sur une perte de balle à 30 mètres de but. À Reims, le premier but, c'est exactement la même chose. Il perd le ballon tout seul alors qu'on est en phase offensive.
Ah non, en plus, t'as raison, Guillaume, ces derniers matchs, il a souvent été exaspérant dans ses pertes de balles. Julien Stéphane était assez agacé de ça.
RMC. Pour revenir sur le 3-3 du match aller, je pense qu'il a fait plus de mal à Séville que de bien à Rennes. Parce que Séville a commencé le match avec... il savait pas trop quoi faire. Il savait pas s'il fallait attaquer, s'il fallait défendre le 0-0. Il savait pas trop où aller. Et par rapport au match aller où ils nous ont bouffé, les 20-25 premières minutes, on n'était pas ridicule. On leur a tenu tête et c'était clairement cohérent. Et je pense que Séville ne savait pas du tout par où prendre le match, quoi.
Mais en plus, un paramètre qui est important aussi dans la performance, et ça retient en rien ce que les Rennais ont fait. Hein. Attention, hein, là, on est logiquement euphorique comme eux, et ça me paraît logique de parler en bien de Rennes, mais il y a aussi l'adversaire. Et quand on parlait des déclarations de Ben Arfa, il y a l'adversaire, comment ils ont préparé ce match-là. Parce que très certainement.
Je pense qu'ils se sont vus un peu beaux, le Bétis. Ouais. Parce qu'ils ont dominé le match aller.
Exactement. Ils se sont dit, ça va être facile.
Même à 2-1. Moi, je pense qu'à 2-1.
Ils se sont dit comme nous.
À 2-1, ils se disent aussi.
Mais même à 2-1, ils se sont dit, on va passer facile.
Oui, exactement.
Mais ils avaient des attitudes. Ouais. Parfois,
la difficulté, c'est toujours.
C'était très bizarre.
La difficulté. La supériorité de la Liga Espagnola.
Ouais, mais.
De temps en temps, ça leur vaut un accro. Ils ont encore passé toutes les équipes, là, ce soir. Et que ce soit une équipe française qui fasse tomber une équipe de Liga, c'est génial pour nous, mais eux, je pense qu'ils ont un peu le boulard.
Beaucoup de monde, Jérôme, sur Direct, ils nous disent, ramenez-nous Fred Hermel, vous en faites pas, il arrive.
Non, mais.
Ah ouais, avec sa meilleure Liga espagnole,
c'est vrai qu'il y a ce complexe-là, et c'est sûr, ils se sont sentis supérieurs. Et le problème, c'est que quand Rennes marque un premier but sur coup de pied arrêté, comme dit Daniel, ça peut arriver à toutes les équipes, que derrière, ils arrivent à mettre le deuxième sur une bonne phase de jeu, avec beaucoup de réussite aussi, ils se retrouvent à 2-0. Tu sais, c'est difficile psychologiquement de te dire, oh là, maintenant on est dans le dur, il va falloir accélérer. Ils ont réussi à le faire en fin de première mi-temps avec cette réduction du score et en début de deuxième, mais c'est trop peu. Quand psychologiquement tu t'es pas préparé au combat, comme ils l'ont fait sur le match aller où ils ont voulu tuer Rennes vraiment, et tu le payes.
Je pense qu'ils se sont dit on passera au jeu sans avoir besoin de mettre la dimension
sauf qu'ils
coupe d'Europe, baston et tout. Très très bizarre.
Guillaume, pour conclure, tu prends qui là en huitième? J'ai un petit Krasnodar si tu veux, ou un Slavia Prague.
Très bien ça.
Ouais.
Ah, il leur faut un bon tirage pour aller au printemps là.
Bah ouais.
Qui termine l'hiver là, les deux matchs avec une équipe comme ça.
Bon, par contre, il y a quelques clubs à éviter. Hein. Il y a Chelsea par exemple qui traîne par là, l'Inter.
Non, mais ce serait bien, tu vois, par exemple, Arsenal, Chelsea, l'Inter, pour qu'il y ait une belle affiche à Rennes, mais que ça vienne en quart ou en demi, tu vois. Là, s'il y a matière à faire, là, c'est tirage, il y a pas de tête de série ou quoi au cast, là,
maintenant,
de toute
façon. Tirage intégral.
Qui se tape un club, là, comme t'as dit, là.
Krasnodar avec retour à Rennes.
Voilà, ouais, c'est ça.
Ça nous permettrait de revoir les belles oreilles de Charles Cabot.
Ouais, on va y aller doucement quand même, parce que si Krasnodar a battu qui?
Ils ont sorti les Verkusen, ça veut dire qu'ils peuvent être chiants, ça, c'est clair et net. Non, mais il vaut mieux prendre ça que Chelsea.
Oui, mais.
Non,
aujourd'hui.
Non, parce que.
Aujourd'hui,
Guillaume.
Ouais, vas-y.
Non, je connais mon club. Si on prend Krasnodar, on va faire deux matchs dégueulasse.
Exactement.
Et on va se faire sortir, c'est sûr.
Moi, je mais si tu prends Chelsea, t'as combien de chances de t'en sortir aussi? Maintenant, ça va devenir à la mode. Donc, il vaut mieux perdre 3-1 le match aller. Il vaut mieux prendre un gros. Les miracles, les gars, c'est une fois.
Dynamo Zagreb,
Daniel. Dynamo Zagreb, très bien. Prends Dynamo Zagreb. Dynamo Zagreb.
Juste la question. Bien sûr qu'il y a des équipes.
Ou Villarreal qui sont relégables.
Tu prends Dynamo Zagreb.
Dynamo Zagreb, Krasnodar. Bien sûr que c'est des super tirages pour elle. Parce que c'est...
Si t'es en huitième et que t'es pas concentré et attentif, merde.
Je vais t'expliquer. T'es pas sûr de passer quand même contre Krasnodar et Dynamo Zagreb. T'es loin d'être sûr de pas... Du moins, t'es quasiment éliminé si tu joues Chelsea, si tu joues l'Inter.
Ouais, prends ça, mais c'est bien ça.
Quand tu t'appelles Rennes, t'as fait l'exploit. Maintenant, vas-y. Va vivre un max.
Zagreb en huitième et en quart, prends un gros.
Oui, mais le risque, je pense, Rennes n'a pas... assez aujourd'hui de certitude, de talent pour se dire, bon, contre Zagreb, on va passer.
Non, mais je te dis pas que c'est forcé. Allez, je te dis que je préfère ça.
On va aller voir Eric
Dimeco.
Guillaume, merci à toi, en tout cas. Bravo, hein.
Merci les gars, bonne soirée.
Salut, à très bientôt. Et profite, hein.
Lui aussi, il appuie sur la sonnette de Daniel. Ding, ding. Eric Dimeco est avec nous.
Bah, demande-lui la mallette à lui, ce qu'il aurait fait.
En direct de Séville. Salut.
Qu'est-ce qu'il aurait fait avec la mallette, lui?
C'est quoi? Mais c'est quoi cette blague là? Je suis désolé, je viens d'arriver, je connais pas vos private jokes là.
Bon, on te raconte. Après le match aller, Daniel nous dit à l'antenne, voilà, t'as le choix, il y a Rocco Siffredi qui sonne chez toi, et il te dit, écoute, soit je m'occupe de ta femme, soit...
Non, sur qui tu mises, mais attention, si tu te trompes sur ton choix d'équipe qui va gagner, voilà. Et sur qui t'aurais misé avant le match, Victoire de Bétis ou de Rennes?
J'avais entendu votre délire là sur Rocco Siffredi. Moi, Rocco Siffredi, m'impressionne pas, il me fait pas peur. Mais non, mais moi je le laisse rentrer, au contraire, ça va rendre ma femme plus amoureuse encore derrière. Donc je le laisse, Rocco, je m'en fous.
Donc ce qui est plus inquiétant, c'est qu'Eric est cramé.
Ouais. Non, mais là je suis véritablement cramé. Il était long ce match, les gars.
T'as assisté à un vrai exploit d'un club français en Coupe d'Europe.
Ouais, c'est génial parce qu'il y avait beaucoup de Rennais. Hier soir, j'ai voyagé avec eux. Ils étaient déjà bien chauds. Ils aiment bien la bibine, les poulets là.
Ah bon ?
Ils ont chanté pendant 2 heures dans l'avion. Ouais. Et ils ont fait du bruit ici. Et surtout, y a eu un scénario qui leur a permis de prendre même le dessus dans la tribune. Voilà. Donc je vous ai écouté un petit peu. Ouais, j'avoue qu'après le match aller, notamment la deuxième mi-temps du match aller. On pensait que ça allait être plus compliqué que ça. Le scénario leur a permis d'éteindre le stade ici, et même s'ils ont souffert en deuxième mi-temps, on se rend compte que le Bétis ça joue bien au foot, mais physiquement à un moment donné ils ont craqué en deuxième mi-temps. Et voilà, écoute, moi je sais pas quoi dire à part de leur dire bravo. C'est bien qu'ils continuent parce que ça va nous donner un intérêt pour les soirées de Ligue Europa quand même supérieures, et puis ça va me permettre de voir du pays. Donc je vous écoutais parler de tirage là et tout là. Bon, moi si je peux éviter d'aller à l'est, trop à l'est, ça m'arrange quand même.
Tu veux pas aller à Krasnodar, c'est vers la Tchétchénie là.
Eric, moi je veux te parler du match parce que je t'ai écouté, moi j'étais avec toi pendant le match. comment t'as vu toi au départ, je disais que tu cette histoire de pressing à 4 que les Rennais faisaient devant. On est d'accord que pendant longtemps, ça ressemblait à pas grand-chose parce qu'ils se faisaient éliminer avec une facilité.
Mais...
les quatre, c'était fou.
Mais
que
exactement.
Le Bétis n'ait pas pu en profiter d'ailleurs de ça.
Mais je vais te faire une petite confidence parce qu'on a eu la compo avant, mais on a surtout eu, par nos échos des gens proches du vestiaire, de l'envie qu'ils avaient, parce que tu peux mettre 4 joueurs offensifs, mais tu peux aussi décider de mettre ton bloc bas et de jouer le contre. Et nous, on nous explique, avant le match, on nous dit, voilà, ils jouent à 4, mais en plus, ils vont faire le pressing pendant un quart d'heure. Donc moi, je regarde les noms sur le papier, je vois Sarr, Niang et Ben Arfa pour faire le pressing, j'ai quand même un gros doute.
Bah oui, moi aussi.
Et le doute s'est confirmé. Le doute s'est confirmé quand même parce que comme ils le faisaient pas bien, ils étaient souvent éliminés sur des jeux en triangle là que les Espagnols font plutôt pas mal. Et à la limite, même pendant le commentaire, je le dis à un moment donné, je dis bon, il y a quand même un problème sur le pressing. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui explique que les mecs devant arrêtent de se faire éliminer sur une passe et peut-être reculer un petit peu le bloc. Bon, il se trouve que le scénario du match est un petit peu fou. Ils prennent vite l'avantage et que après, ben, ça devient ça donne un match bizarre parce que en deuxième mi-temps, il y a le petit Canales là, chaque fois sur une passe, il le trouvait là juste devant la défense. Ouais. J'ai dit c'est pas possible, ils vont pas pouvoir tenir comme ça toute une mi-temps en laissant ce garçon seul et surtout il se faisait éliminer à 4 ou 5 sur une passe. Et puis finalement bon, mais les autres en face ont pas eu d'inspiration, ils ont raté un nombre incalculable de centres. Ils ont eu deux ou trois possibilités qu'ils ont mal jouées. Puis finalement je crois que physiquement les joueurs du Betis sont cuits aussi. Ils ont un championnat qui est long, qui est compliqué, ils ont des échéances importantes. Et ce soir, ils sont passés à côté de leur match, tout simplement. Il faut pas chercher plus loin.
Qu'est-ce que t'as pensé du match de Ben Arfa?
Il y a cette finalement il est dans le coup sur quoi, sur deux buts, c'est ça, sur les, deux, les buts, le deuxième, ouais, et le troisième but, puisque voilà, après j'aurais aimé, mais c'est toujours pareil, dans un match comme ça qui devient compliqué en deuxième mi-temps où tu as du mal à sortir les ballons, c'est quand même lui que tu dois trouver en premier, et quand tu le trouves, lui doit être capable de garder les ballons, de subir des fautes ou de faire des différences, et il arrivait pas à le faire, ça. Donc on a, dans le commentaire on l'a dit, on était même déçus à un moment donné. Et puis après, il y a l'éclair de la dernière minute qui permet d'appuyer la qualification. Mais bon, je pense qu'il sera allé se qualifier sans ce but-là. Mais on est toujours sur notre fin avec un match d'Athènes. Parce qu'on se dit, mais s'il arrivait à faire les bons choix, les bons gestes, soulager ses partenaires, même s'il fait pas le travail défensif, tu peux soulager tes partenaires en venant chercher les ballons dans le milieu de terrain, en gardant le ballon, en subissant des fautes. Il a pas toujours fait comme il faut, quoi. Voilà.
Jérôme.
Ouais, Eric, moi j'ai mis en avant la doublette Bourigeaud-Grenier, parce que je trouve que
Grenier,
c'est un élément important sur le match. Alors bien sûr que je suis d'accord avec vous sur le pressing, peut-être maladroit et tout ça, mais je trouve que sur le début de match, mine de rien, le fait que le Betis tombe aussi dans un faux rythme, c'est aussi dû au calme de ces deux joueurs là. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, en étant
Grenier, Bourigeaud, ils ont été énormes.
Tu as plus de vues que moi là-dessus.
Ouais, non, mais c'est surtout que quand tu es devant la défense comme eux, que tu es ceux qui poussent normalement les attaquants au pressing, et que tu vois que les mecs devant, ils y vont pas comme il faut, et que surtout, en deux passes, ils sont passés. Eux, ils ont été obligés de gérer la plupart du temps trois mecs, là, c'est-à-dire qu'il y avait Lo Celso, il y avait Canales, qui était toujours entre les lignes. Tiens, William Carvalho, qui malgré tout, est le garçon par qui tous les ballons passent. Alors, il va à 2 à l'heure, mais ça fait rien, il fait toujours les passes qui décalent. Tiens, il y avait même Ressé qui revenait un petit peu dans leur zone. Donc, souvent, ils se retrouvaient en sous-nombre, là. Et à l'arrivée, ils ont quand même limité la casse, et puis surtout ils ont été intéressants au moment de sortir les ballons, parce que c'est leur qualité première à l'arrivée. Voilà, donc gros match, parce que il fallait je sais pas si on a les stats des kilomètres parcourus par ces garçons là je sais pas, ça doit se trouver, ça, mais je pense qu'ils ont quand même fait
un joli
footing aujourd'hui. Ouais, mais non, tu sais que la Ligue Europa, c'est la compétition des pauvres, là. Donc, il n'y a pas d'arbitrage vidéo, il n'y a pas de stats, il n'y a rien. Il y a les petits commentateurs, petites stats,
à propos de stats, il y a un tweet de Léa Siliki qui était blessé ce soir, le joueur rennais. Il met 6% de chance après Jablonec, 14% de chance avant ce soir. Et voilà, le football, c'est pas les stats, dit Léa Siliki.
C'est pas faux, mais c'est vrai qu'ils reviennent de loin à Rennes, quand même.
Malgré tout.
Merci Eric, en tout cas.
Méga loin, même, ouais.
Bravo Eric pour la qualité de tes commentaires.
Bonne fin d'émission, les gars.
Salut, merci.
Quel con. Qu'est-ce qu'il est con.
Il y a quand même quelque chose. Mais même si le match de ce soir vaut pas forcément vérité pour tous les autres, et que toutes les autres équipes ne peuvent pas forcément copier sur ce qu'a fait Rennes, mais cette espèce de 4-2-4 marchera peut-être pas tout le temps.
Ah bah non, c'est sûr.
Bien sûr que non. Mais il n'empêche que Rennes est allé jouer à l'extérieur un match où c'est vrai, il fallait qu'ils prennent un peu l'initiative, avec deux mecs devant la défense techniques, des joueurs techniques. Ouais. C'est-à-dire pas le profil habituel, parce que
c'est
Grenier,
plutôt
Bourigeaud,
offensif, Grenier dans l'absolu.
Mais tu sais, c'est un 10 de formation.
Voilà.
Donc après un 8, là maintenant il joue 6.
Tu démarres avec 5 joueurs clairement.
Mais c'est pour ça que ça ressemble. Bourigeaud, il y a eu des époques, alors que justement je trouve intéressant de le mettre au milieu, mais il y a eu des époques où certains auraient pu le mettre dans un 4-3-3 en haut à droite, dans un 4-3-3 au milieu un peu plus haut. Bon ben voilà.
Plus les latéraux qui montaient beaucoup.
Quand on met des joueurs techniques au milieu, moi je suis content. Alors effectivement, peut-être que ça soit Peut-être que ça sourira pas toujours, mais
regarde
Lyon. Est-ce que s'ils jouent les Rennais ce soir avec deux milieux défensifs plutôt travailleurs et pas techniques,
André qui est absent, et quatre mecs devant qui sont éliminés rapidement au pressing,
est-ce que Rennes s'en sort forcément mieux?
Franchement,
je sais pas s'ils s'en sortent mieux.
Attends, mais je peux pas entendre des conneries.
André, c'est un titulaire indiscutable à Rennes.
C'est un titulaire indiscutable, mais arrête de me dire que c'est le stratège du joueur.
Il est stratège, non, mais c'est un joueur important.
Non, c'est un joueur important. Mais toi, tu m'as dit stratège.
Allez,
un bon manieur de ballon, ça peut être en effet un Bourigeaud dans ce poste-là ou un Grenier. Là, tu te dis que ces deux joueurs-là, oui, c'est des bons premiers relanceurs, ils perdent pas un ballon techniquement, ils sont très propres,
c'est très important. Oui. Moi, je suis content de voir
et
ça.
Et quand ça marche face à une équipe technique, c'est osé de la part de Stéphane d'avoir fait ça.
Ben voilà.
Mais à
donc ça veut dire qu'on peut le faire aussi dans notre football. Bravo, je suis content.
Qualification de Rennes donc qui gagne à Séville.
Moi je préfère qu'ils soient allés se qualifier comme
nous
ça.
Ils
avaient mis autobus avec deux mecs, parce que ça aurait donné raison à ceux qui disent ah voilà, on a... non là j'aime bien ça. D'ailleurs avant la rencontre, j'avais dit j'aime l'ambition que Rennes affiche, j'ai tweeté là-dessus, j'ai dit allez on est là. J'étais prêt avec l'envie de voir quelque chose. Bon, on l'a vu.
Dans quelques instants, on est de retour avec Fred Hermel qui nous rejoint, supporter Rennes, on vous attend. Alexandre d'ores et déjà patiente. Rennes qualifié pour les huitièmes, bravo Rennes, et bien sûr on en parle dans l'after jusqu'à minuit.
RMC Football Show, l'after foot, Gilbert Bribois.
Jean Bretagne, Daniel Rio, Rennes qualifié, magnifique, qualif des Rennais ce soir au Bétis Séville, 3 buts à 1, c'est le sujet de l'after ce soir, et qui c'est qui nous rejoint? C'est Fred Hermel, salut Fredo.
Hola chicos.
Salut Fred.
Alors, Fred a un truc sérieux à nous dire, attention.
Quelle est la meilleure Liga du monde? La Liga Conforama.
Donc celle-là, on s'attendait pas à ce que tu la perdes, cette équipe-là.
Ah franchement, non. Je pensais vraiment que Villarreal allait se faire éliminer, mais le Bétis, mais alors moi je suis admiratif de ce qu'a fait Rennes ce soir, parce que je pense que c'était un match qui a été intelligemment préparé, le melon des joueurs du Bétis en disant on est supérieur, ça va finir par rentrer, bah non, je pense qu'ils payent leur suffisance en disant on est tellement plus fort que là-dessus en disant ils prennent un but, ils en prennent un deuxième, non mais ça va venir, on va y arriver, on est supérieur, ouais, bah sauf que c'est pas venu. Moi je trouve qu'il y a eu une gestion des temps du match parfaite par les Rennais, et que physiquement je pensais que ça allait s'écrouler, et ben non.
C'est même plutôt le Bétis dans les derniers quarts d'heure.
Ouais, à la fin. À la 80e, je me dis c'est mort. Parce que le Bétis, parce que normalement, tu sais, dans les remontadas en Espagne, quand t'as la 80e, t'as un but à marquer, t'as le public qui est dedans, ça part dans tous les côtés, etc.
Mais là, le public était pas chaud du tout.
Non, je pense que le public connaît son équipe. Bah ouais, je pense qu'à un moment, ils ont vu que le, ils se sont dit, mais attends, mais on va se faire éliminer là, tu vois. Parce que, alors quand il y a eu le premier but, enfin le 2-1, le but juste avant la mi-temps, etc. On s'est dit, il y a eu un temps fort du Bétis, ouais, ils vont marquer, nanana. Mais à un moment, voilà, j'ai trouvé que ce soir, le Bétis est tombé dans ses travers, c'est-à-dire c'est une magnifique équipe de milieu de terrain, mais qui a certaines largesses défensives, et puis devant qui a du mal à marquer.
Bah, ils ont pas de véritable avant-centre, quoi, de voilà. Mettre devant.
Non,
mettre,
exactement.
Ouais, bon, ça fait longtemps qu'on avait pas vu Ressé jouer autant, d'ailleurs.
Il a pas mal joué, hein.
Mais il a pas été si mauvais.
Ouais. Ah,
il manque encore un peu de jambes, mais c'est
pas voilà. Il est pas mauvais.
Après, il a fait quelques mauvais choix dans les dernières passes et les derniers gestes.
Il est pas mauvais dans une équipe qui aujourd'hui a été très moyenne. Et si les mecs sont à leur niveau.
Lo Celso reste le meilleur. Canales en deuxième, mieux qu'en première. En première, il est un peu en dessous, mais en deuxième, très bien.
Ça du ballon, quand même.
C'est un genre de classe, ouais, c'est vrai.
Mais tu vois, c'est ça, c'est, tu vois, on voit Lo Celso, Canales, on voit des joueurs de milieu de terrain. C'est-à-dire, c'est une magnifique équipe de milieu de terrain. C'est très beau à voir, hein. Moi, j'adore. Moi, c'est le football que j'aime, hein. J'écoutais tout à l'heure, Eric Dimeco qui disait, voilà, comment, c'était sur Rome, peut-être, en disant que Canales, en une passe, il mettait 3-4 mecs dans le vent, quoi.
C'est sûr.
Donc ça, moi, j'aime beaucoup ça. Après, le football. Et moi, ce que je trouve merveilleux, bah, c'est que la Coupe d'Europe, bah, c'est ça, quoi. Et voilà. Il faut surtout pas mépriser la Ligue Europa. Parce que ce soir, il y a des Rennais qui font l'histoire. Qui trouvent ça génial.
Nous, ici, on a morflé à cause de ça.
Voilà, quoi. Tu
et
vois,
là,
donc,
ce soir, je vais te dire, tu crois pas si bien dire, parce que au-delà du match
ce match
de ce soir.
Ce match, c'est un hommage à Francis Gilleux et Jean-Louis Trio.
Exactement. Mais le match de ce soir, nous, évidemment, les Français, on a regardé ce match et on a pris beaucoup de plaisir. Mais moi, alors, j'en ai pas vu d'autres ce soir, mais à 19h, je me suis fait les autres en multiplex, multizone.
C'est génial.
Bah putain, mais il y avait des trucs de malade. Le Zénith Fenerbahçe, il était dément. Le Arsenal, machin, je l'ai vite arrêté parce qu'ils ont vite fait la diff. Mais
Valence Celtic, c'était pas
le,
mal du tout.
Le Villarreal Sporting avec Sporting qui marque en premier et tout.
Ouais,
la
sûr,
fin,
hein.
C'est la fin, c'était bouillant. Enfin, il y a eu partout, c'était extraordinaire. Ah ouais. Les matchs aller-retour, le suspense, des équipes à plus faible notoriété que celles qui sont en Ligue des Champions, mais des matchs tout aussi serrés. Très intéressant. Non, l'Europa League, c'est une sacrée compétition. On le dit tous les ans. Bon, là, on a une équipe qui va aller en huitième. L'année dernière, on en a une en finale. Et on a pris, Dieu sait combien on a vécu de super belles soirées.
Alors,
donc, au contraire, que
les gars,
ça continue. C'est trop bien.
Au Bétis, on a Joaquin qui nous dit, nous avons fait trop de cadeaux. Et Sétienne, le coach, qui dit, Rennes nous a dominés. Voilà. Il est clair, le coach du Bétis. Il se cache pas. On savait que ce serait difficile. Comme on l'a vu, ils sont également puissants sur coup de pied arrêté. Voilà. Et Sétienne reconnaît donc que Rennes a dominé.
C'est un super coach, hein,
c'est un bel hommage.
Un mec bien, c'est très bien ce qu'il dit, c'est chouette.
Écoutez, sur coup d'arrêté, le premier but Rennais, il est sublime, quoi. Enfin,
écoutez, c'est maintenant, de défense, mais, Julien Stéphan, le coach du Stade Rennais, il y a quelques instants sur RMC Sport.
Non, mais tout le mérite en revient aux joueurs. Vraiment, ils ont fait une partie admirable, admirable de débauche d'énergie, d'intelligence aussi, de don de soi, de sacrifice. Voilà, je pense que c'est une grande soirée pour le club, pour les supporters, pour les joueurs aussi, qui ont été vraiment performants. On a appris de nos erreurs de la semaine dernière. On avait l'ambition de venir ici pour jouer crânement notre chance. C'est ce que les joueurs ont très bien fait. Il y a eu quelques moments de souffrance, notamment en deuxième mi-temps. Mais je pense que globalement, sur le match, c'est une victoire qui est méritée.
Voilà. Bon, c'est dommage, on aurait bien aimé avoir son explication sur ses choix offensifs, qui nous disent ce qu'il a voulu construire, parce que bon, peut-être plus tard, on l'entendra plus tard.
Bah, j'aimerais bien ouais, qu'il explique la mise en place d'une sorte de 4-2-4, devant la défense, de ne plus mettre des joueurs costauds, mais des joueurs de foot. Ça, c'est intéressant.
Après c'est vrai.
C'est novateur, c'est bien.
C'est vrai qu'on en parlait pendant le match, il n'y avait pas énormément de profondeur devant, il y avait des joueurs absents, dont André, donc.
Et Léa Siliki, par ailleurs.
Donc, est-ce que si ces mecs-là sont là, bah, certainement que au moins un des deux est sur le terrain.
Oui, peut-être qu'il
ça peut te rectifier.
Ouais,
mais franchement, est-ce que s'il est sur le terrain, par exemple, à la place d'un Niang, qui a fait les efforts ce soir? Toi, il faut dire, il a fait le match, il est allé et tout. Mais qui, en phase offensive, je trouve, mais deux fois moins fort qu'un Sarr. Sarr, je trouve qu'il a vraiment énormément de qualité. Mais si tu mets un autre milieu à la place de Niang et tout, est-ce que ça te déséquilibre l'équipe? Je veux dire, est-ce que ça te la rend plus défensive? Non, je me demande si ça te la rend pas même plus forte au niveau de la maîtrise.
Parce qu'en fait, quand t'as Niang et Sarr, sur les côtés, c'est pour surtout admettre de la vitesse.
Quand
tu joues avec Bourigeaud, qui naturellement
il est confus, Niang, à la différence de Sarr, qui joue beaucoup plus juste.
Moi, je il peut jouer là parce que déjà son dernier but est beau, mais pour moi, Niang, il peut jouer dans ce système-là, dans un 4-3-3. Tu vois, avec attaquant de côté gauche, il fera moins d'efforts dans le repli, qui va l'user. Là, il en a fait beaucoup, et surtout, il va garder du peps pour essayer de rentrer, d'aller percuter, tout ça, et de faire des appels dans la profondeur. Ça, Niang, pour moi, est plus un attaquant d'axe qui peut aller jouer sur le côté.
C'est logiquement pas un gars de côté.
À la différence de Sarr, qui lui a déjà évolué. Hein. Rappelle-toi, la Mouchi, il l'a souvent mis dans l'axe comme ça, souvent sevré de ballon. Et c'est pas son poste préférentiel quand il joue sur le côté. C'est vrai que Sarr te propose quand même beaucoup plus de choses dans la percussion, même l'intelligence de ses déplacements. Techniquement, il est capable de faire beaucoup plus de choses, je pense, que Niang.
Ah oui, moi j'aime beaucoup Sarr. C'est un des bons joueurs de notre championnat.
Dans quelques instants, on va écouter Olivier Létang. Mais j'aimerais qu'on accueille Alexandre au 32-16 qui est avec nous. Salut Alexandre.
Salut l'after, bonsoir Gilbert.
Bon, merci d'avoir patienté. Est-ce que c'est la plus belle soirée de l'histoire de ton club? Histoire récente, hein, je parle pas des victoires en Coupe de France il y a 50 ans. Hein.
Ah, mais il était pas né donc.
La plus belle, évidemment, même s'il y a une semaine, ça avait été compliqué, mais ce soir, on savoure non pas un exploit, parce que je pense pas que ce soit un exploit. Faut pas oublier qu'on a quand même mis 6 buts au Betis Séville, et ça, je trouve qu'on n'insiste pas assez sur le sujet. On n'est pas allé gagner un partout et 1-0 à l'arrache dans la dernière seconde. Il y a eu 6 buts de marqués. Donc un exploit non, mais une grosse performance de l'équipe qui je savais qui en était capable. Mais c'est Rennes. On peut tomber sur un match raté ou sur une performance auquel personne ne croyait.
Mais tu crois pas que il est possible maintenant pour ce club de sortir de ça, d'essayer de construire quelque chose de nouveau? Il y a quand même dans, ne serait-ce que
là,
déjà.
Il y a des signes quand même.
Bah, c'est pour ça que je dis ça. Dans cette région qui adore le foot, ce club-là, des supporters, on en parle régulièrement, qui sont passionnés sans en plus tomber souvent dans l'excès, qui ont vraiment un besoin enfin de vibrer avec leur club. Il y a un dirigeant, un président qui connaît vraiment bien le foot. Et ça change parce qu'il y a un paquet de présidents qui connaissent pas le foot. Là, c'est un président qui connaît. Il a fait le pari d'un entraîneur jeune qui a plutôt des idées de foot qu'on partage ici dans l'after historiquement. Tu crois pas qu'il y a matière vraiment à construire quelque chose dans ce club, enfin d'être le leader du deuxième chapeau dans la Ligue 1, si le premier chapeau c'est Paris, Lyon, Marseille, d'être le leader du deuxième chapeau de la Ligue 1, Rennes, et de construire une histoire de jeu, de faire plaisir à ses supporters, tu vois, ce genre de choses là.
Bah bien sûr, mais si vous regardez le mercato, puisque aujourd'hui l'équipe et les joueurs c'est clé aujourd'hui dans le football, ça fait 5 voire même 10 ans qu'on n'a pas eu un mercato avec des joueurs de talent. Alors c'est vrai que Ben Arfa,
c'est pour ça qu'il se passe quelque chose et j'espère que ça va continuer. Et une victoire comme celle de ce soir, ça peut solidifier l'idée de faire de ce club un club, on va dire, tu vois, un truc sympa, le club mais, sympa qui plairait à tout le monde.
Moi je suis d'accord avec toi.
Ouais, c'est ça.
Sauf que là on avait reçu Julien Stéphan là dans Team Duga la semaine dernière. Moi je lui posais cette question là, qu'est-ce qu'il faut faire et à mon sens pour que ce club se réveille un petit peu. Alors moi je veux bien, Gilbert a dit cette année ça se passe.
Non, cette année, il y a des signes, non, j'ai dit.
Mais alors, c'est quoi tes signes?
Bah.
Attends.
Non, mais il y avait le recrutement,
Non, mais moi, je voulais le recrutement.
Tu mets ce match. Tu mets ce match.
Moi, je remonte à Olivier Létang, déjà. Premier signe. Non, mec, un peu différent, une idée neuve.
Une connerie.
Bah, quoi?
Un signe, c'est un.
Bah oui, Jérôme, tu rigoles. Olivier Létang, c'est un vrai président qui connaît. Mais tu sais les présidents qu'ils ont eu avant,
Rennes? Excuse-moi.
Mais tu sais les présidents que Rennes a eu avant? C'était même au-delà de la catastrophe.
Bon, d'accord.
Là, t'as un président qui connaît le foot et qui, franchement, a des vraies idées sur la façon dont il veut construire le club et surtout dont il veut que son équipe joue et l'image qu'elle doit renvoyer.
D'accord, mais déjà, ses vraies idées, il s'est déjà trompé parce qu'il a déjà viré un entraîneur qu'il avait lui.
C'est le premier président qui vire un entraîneur?
Non, mais ce que je veux dire, quand c'est même. Qu'il est pas là depuis longtemps, il a déjà viré un entraîneur.
Moi, j'adorais le choix de Sabri Lamouchi. J'aime bien le personnage et tout. Il le vire, je dis bon, bah, ok, on va voir. On faut toujours donner sa chance à ce qui se passe.
Donc,
on va dire, il met un nouvel entraîneur et la dynamique continue et elle est encore meilleure.
Pas de problème.
Tout est positif, je trouve.
Allez, on va dire que c'est un signe. Après, c'est quoi tes autres signes cette année?
Le recrutement. Mine de rien,
des joueurs intéressants, espèce d'image un peu plus offensive.
Après, tu passes les poules. Bah, le hockey à l'arrache. Bon, enfin, tu passes les poules. Non, c'est quand même un signe.
Jérôme, Rennes, c'était le club. Tu regardais, tu t'ennuyais tout le temps.
Et après,
c'était l'ennui incarné.
Cerise sur le gâteau.
Là, maintenant, Rennes, je les regarde les matchs à la télé. J'ai envie de voir quoi.
Alors, ok, bon.
Sans parler de Salah,
tout ce que vous.
Mais non, justement, elle vient beaucoup moins. Est-ce que c'était pas elle la guignarde au fond?
Tu vas voir qu'elle va revenir. Elle va revenir en huitième.
Hey, sûr. Alors moi, je vais te prendre le contre-pied. Je vais te dire, ok, je suis d'accord avec tout ce que vous me dites. Les phases de poule, on vient de le dire. Je vais bien retenir l'exploit. Bon, le groupe était pas quand même.
Mais le groupe, il était bidon. Mais pour Rennes, c'était incroyable. Ils sortent jamais, même contre des bidons, ils sortent jamais.
Et beaucoup de réussites, ils se qualifient. Okay,
avec Astana, Jablonec, et le Dynamo Kiev quand même.
Ouais,
toujours qualifié là.
D'accord. En championnat.
Shevchenko et moi, respecte.
En championnat, ils sont combien? Ils sont 11e. En championnat, 11e. C'est vrai que c'est des signes. J'imagine la réflexion des Rennais en me disant, ils sont 11e, tu sais, ils doivent être à 5-6 points de la 6e place.
Exactement ce que vient de me dire Jérôme Thomas.
Non.
S'ils battent Rennes, ils reviennent à un point. Non, s'ils battent l'OM. S'ils battent l'OM, ils reviennent à un point de l'OM.
Et s'ils battent l'OM et s'ils perdent contre l'OM. Non, mais ce que je veux dire, je veux dire,
mais Jérôme, mais ce qui est intéressant, c'est déjà la façon dont on parle de Rennes. Avant, on passait pas une émission à faire sur Rennes.
D'accord.
Là, le fait qu'ils sortent le Bétis,
mais
ça c'est nouveau pour eux.
Non, mais d'accord.
Ça c'est nouveau. Rennes, à 80% des émissions, c'est foutu de leur gueule.
De Rennes.
On s'est tout le temps foutu de leur gueule.
Tu veux que je te dise.
Même les Rennais, ils appelaient pour eux-mêmes se foutre de leur gueule.
Tu veux que je te dise ce qui va changer de Rennes? Bah, en effet, parce qu'aujourd'hui, là, c'est beau ce qu'ils ont fait. Bien sûr, c'est un exploit et je suis le premier à être très content et tout ça. Maintenant, s'ils se font sortir en 8e et qu'ils finissent 10e de Ligue 1 et qu'ils ne gagnent pas de trophée, on va retomber dans les travers. Et
non, s'ils continuent à bien travailler.
Mais, non, mais la belle soirée,
continue l'année
va
prochaine
rester,
à bien travailler.
Mais la belle soirée, non, mais d'accord. Non. Mais non, mais elle va rester la belle soirée.
Non, mais s'ils continuent à bosser,
ça
Jérôme.
Sauf que non. Mais moi là, je te rejoins pas, Fred, et je rejoins personne. C'est que pour changer. À Rennes, ça va changer, bien sûr. Mais pour changer
peut-être qu'ils continuent à bosser. Ils ont mal bossé
l'image
pendant 30 ans.
Ce club,
là, s'ils bossent bien maintenant depuis un an, c'est génial.
Ça.
Vas-y, définitivement, c'est quoi?
Ben, c'est de gagner un trophée. Voilà.
Mais Jérôme,
on est bien d'accord.
Justement, cette année, ils sont encore en coupe. Et il y a ces aventures-là, tu sais que c'est des choses qui restent dans la tête des gens.
Il y a un gars au fond de la classe qui lève la main. Qui sait qu'il s'exprime pas souvent, comme Fred. Il faut lui laisser aussi la parole.
Oh, Fred Hermel qui s'exprime pas souvent?
Non.
Monsieur l'ambassadeur Hermel.
Ouais, attends,
son excellence Hermel.
Chevalier de l'ordre du mérite.
Et moi, je te confirme qu'il est bien ambassadeur du Real, parce que, franchement, il est pas bien reçu au Wanda.
Ah oui, c'est vrai, vous êtes vulgaire.
Ouais, c'est moi qui lui ai ouvert les portes, obligé. Et ils veulent pas laisser rentrer.
Tu veux que je raconte tout, quoi?
Ah ouais, vas-y.
Hein? Vas-y. Tu t'es perdu dans les couloirs, t'as failli arriver en retard.
Oui,
Mais
l'avantage, c'est que vu que tout le monde me reconnaît, ils m'ont ouvert les portes.
Fred, tu voulais dire un truc et ensuite je redonne la parole à Alexandre.
Non, mais le truc, je suis pas d'accord avec Jérôme. On n'a pas besoin de gagner un trophée pour changer une dynamique. L'émotion qu'ont eu les supporters rennais, les joueurs ce soir,
mais
c'est énorme.
Et non,
ça
reste un gros premier pas pour un club comme ça.
Daniel, un club se construit aussi sur des grandes émotions.
Et sur des coups d'émotion.
Mais non, mais attends,
oui,
voilà.
Je suis d'accord,
Fred,
avec toi.
Je suis d'accord.
Bravo,
avec Fred. Toi.
Je suis d'accord. Bravo, Fred. Bravo, son excellence.
Je regrette d'avoir dit du
son
mal avec
son excellence Hermel.
Non, mais je regrette.
Il m'a dit son excellence, son chevalier de l'ordre du mérite. Il m'a dit tout à l'heure. En fait, Jérôme, il est sympa. Qu'ils se sont vus hier, quoi.
Eh, c'est vrai. Mais...
Ouais. Encore, non, Jérôme, c'est mon nouvel ami que j'ai.
Mais t'en doutes.
Et on t'a pourri, Daniel, mais c'était, alors dès qu'on était plus à l'antenne, ouais, bizarre, ouais, d'accord, ouais,
tu vois. Daniel, c'était non, mais Fred, Daniel, ce soir, a des soucis parce que il y a ding ding. Voilà, là, il est pas bien.
Honnêtement, je crois, vous avez, et les amis, le jeu, c'est tout le monde qui le fait.
Oui, mais là, c'est tombé sur toi, c'est comme ça.
Mais vous aussi, vous aviez misé dessus.
Moi, j'ai rien dit.
Tout le monde misait sur Bétis, donc
bon,
il serait passé dans toutes les maisons.
Chose, s'il vous plaît. Alexandre.
Chez Fred Hermel aussi, il serait passé.
Bon, ah oui, il aurait été bien sous, là.
Oui, Gilbert.
Ouais, Alexandre.
J'appelais aussi parce que je voulais te remercier.
Pourquoi?
Ah, parce que la semaine dernière, pour ne pas citer, j'ai regardé le match aller, j'étais pas au Roazhon Park, j'étais au Bar au Sport, qui est le bar des supporters rennais dans le 15e à Paris.
D'accord.
Et sur le chemin du retour dans le métro, j'écoutais l'after, et t'étais le seul à croire en une qualif rennaise, alors que tous les autres autour de la table, surtout Daniel.
Mais arrêtez de croire et pas croire,
moquer le stade rennais, et...
T'inquiète, Alexandre, on se comprend, nous deux.
Je pense qu'avec le cœur qu'ont mis les Rennais à la fois au match aller et au match retour, si le match aller, évidemment, Rennes a joué 30 minutes et derrière ils se sont écroulés physiquement, mais si on n'a pas cru à la qualif rennaise juste parce que le Betis Séville avait eu 75% de possession de balle, l'équipe de France n'aurait été jamais championne du monde.
Alexandre, moi je suis. C'est vrai qu'on était pessimiste et moi je l'assume par.
Et moqueur.
Oui, mais moqueur parce que c'est
gentiment moqueur.
Attention, c'est important parce que j'ai eu des échanges sur les réseaux sociaux et bien sûr qu'on était moqueur, mais attention, moi j'ai été joueur de football aussi, hein. Je sais ce que c'est.
Chambreur.
Je chambre beaucoup, j'assume mes propos. Voilà, la moquerie, c'est la méchanceté. D'émettre des doutes sur la qualité technique, sur le match aller, je te parle, hein. La qualité technique, la qualité d'ensemble du groupe, du collectif. Franchement, c'était difficile pour quelqu'un qui est neutre de dire, même si je suis supporter français et j'étais à fond pour Rennes ce soir et j'adore ce qu'ils ont fait, l'exploit, j'ai vibré avec eux. franchement, c'est difficile de croire à une qualification après le match aller. Ils ont pris une leçon de football en sur le match aller.
François,
et c'est pas méchant ça de dire ça.
François.
Non, c'est Alexandre.
Alexandre. Est-ce que je sais pas depuis combien de temps tu écoutes notre émission. Est-ce que tu crois sincèrement, et je m'adresse à tous nos auditeurs, est-ce que tu crois sincèrement que si une émission de foot c'était dire je crois, je ne crois pas, est-ce que tu crois que ça serait intéressant et que tu nous écouterais? Est-ce que tu crois que le fond d'une discussion de foot, c'est de dire je crois ou je ne crois pas? Quel est l'intérêt finalement de croire ou de ne pas croire? Parce qu'au fond, à n'importe quoi, je veux dire, même si tu prends 4-0 à l'aller, 5-0, on fait l'émission après, et à partir du moment où c'est une équipe française, parce que cette équipe française a des supporters dans notre pays forcément, et qu'elle est susceptible d'interagir avec nous par les appels ou les réseaux sociaux, ben on arriverait à chaque fois, même si t'as pris 6-0, non mais on peut quand même y croire. Mais quel est l'intérêt en fait? Quel intérêt ça aurait? Quel intérêt ça aurait de dire?
Bah, ça aurait fait plaisir à Alexandre, je pense.
Je vais continuer ta phrase, Daniel.
Ça n'a pas. Au fond, c'est pour ça que le quand ils disent quand t'as fait 3-3, il y a 14%. C'est mine de rien qu'il y a une histoire qui te dit que quand en plus t'as si peu de chance que ça après le match aller, qu'en plus à l'intérieur du match, techniquement, t'étais inférieur à ton adversaire, et ben tu dis. Donnez-le-nous l'exploit, je le veux. C'est comme pour Lyon-Barça. Mais putain, mais donnez-moi l'exploit.
Bah, il est là.
Je le répète encore.
Bah, je peux te dire que.
Attends, Alexandre, pour conclure. Mais je le répète et je refais le jeu de repos avec Alexandre. Pour Lyon, j'y crois pas. Mais faites-moi y croire.
Mais l'essentiel, c'est que Croco y est cru.
Non, mais Alexandre. J'aimerais qu'Alexandre réponde à l'intérêt du j'y crois pas, Alexandre.
Ouais, non, mais évidemment, j'y crois pas. Par contre, à la différence, je trouve un petit peu, moi, de la presse parisienne par rapport à la presse locale, bon, qui était évidemment derrière Rennes, eux, ils débattent plus sur le fond de comment on va aller chercher la qualif plutôt qu'expliquer qu'on n'y arrivera jamais parce qu'il y a deux classes d'écart.
Alex, merci en tout cas, bonne soirée.
Non, mais ça, tu peux pas dire ça, Alexandre, parce que après le match aller, on a beaucoup de parlé de pourquoi ça nous semblait impossible.
Mais je veux dire à moi, Alexandre.
Et après la presse locale, si tu veux la lire, il y a pas de problème, mais il faut que tu comprennes comment ça marche. La presse locale ne te dira jamais réellement on va pas croire machin parce que c'est pas leur taf. Tu vois, il faut aussi savoir comment ça fonctionne.
Pause, ensuite Fred dira ce qu'il veut dire à Alexandre et puis on écoutera Olivier Létang qui s'est exprimé il y a quelques instants au micro d'RMC Sport 1. Rennes qualifié pour les huitièmes. Rennes a gagné à Séville face au Bétis 1-0. Puis on fera un petit tour d'horizon des qualifiés également dans quelques instants. Vous allez voir que l'Europa League est belle. C'est un jeudi rose de l'after et ça c'est pas souvent. Profitons-en. À tout de suite dans l'after.
RMC Football Show. L'after foot. Gilbert Bribois.
Daniel Riolo, Jérôme Rotten, ils sont là. Tiens, je vous signale que le tirage au sort des huitièmes supporters rennais, c'est demain à partir de 13h sur RMC Sport 1.
Ça, on va se régaler.
À suivre en direct, bien sûr.
Donc, c'est déjà le tirage.
Bah oui, puisque les huitièmes. Et alors, je veux juste signaler quand même que le producteur Jérôme Thomas est tellement en fusion. Qu'il a tweeté un hashtag Road to Baku. La place, le lieu de la
finale. Eh oui, c'est bon.
Donc,
ça.
Le hashtag Road to Baku.
Ce qu'a dit l'auditeur en avant Alexandre m'a donné une idée. Je pense qu'un soir où on est calme, sans match de foot, on devrait s'intéresser à ce thème-là, à ce qu'attendent les supporters de certains clubs dans l'histoire de je crois, je crois pas. Qu'est-ce qu'ils attendent de ça et la différence entre ce que va pouvoir dire la presse locale et ce qu'on va pouvoir dire ailleurs dans d'autres rédactions. Moi, je trouve que c'est un thème très important. À une époque où les gens se demandent comment travaillent les journalistes, est-ce que les journalistes sont sous influence ou pas, puisque ce sont les grands thèmes du moment dans tous les domaines plutôt, eh ben que les gens viennent nous expliquer de savoir ce qu'ils attendent et comment ils jugent notre travail. Moi, ça m'intéresse.
Fred.
Non, simplement je trouve ça très bien parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension.
Merci pour l'excellence.
Il y a beaucoup d'incompréhension sur nos désirs à nous.
Exactement.
Mais il faut qu'une fois pour toutes que les gens comprennent qu'un média français a tout intérêt qu'un club français aille loin dans une Coupe d'Europe.
Ben évidemment.
C'est-à-dire qu'on a envie de ça. Moi, je suis très heureux de voir le Bétis s'éliminer ce soir par un club français, surtout dans ces conditions-là. Donc souvent, les gens se font en disant vous allez contre les clubs français.
Bon, c'est pas vrai du tout, Fred.
Ouais, mais enfin, ça c'est
pareil. Non, c'est la famille.
Bah, il bosse, ouais, c'est vrai.
Non, mais tu vois, mais là, non, mais tu vois ce que je veux dire.
Oui, on voit.
Mais non. Ah oui, c'est vrai. On devait en discuter hier. On n'a pas eu le temps. On a tellement de boulot.
C'est ça.
Je voulais t'expliquer le truc aussi. Mais bon.
Je veux qu'on écoute Olivier Létang. On n'a pas eu l'occasion de l'écouter, le nouveau président du Stade Rennais, il y a quelques minutes sur RMC Sport.
On s'est qualifié pour les 16e de finale, on est tombé sur un très bel adversaire qui a beaucoup de qualités et on a réalisé aujourd'hui un authentique exploit. Je pense que les médias avaient évoqué le pourcentage de chances de se qualifier, c'était 14%, on l'a fait. Bravo à tout le club, bravo aux joueurs, bravo au staff, bravo à Julien. Il y a eu une préparation du match qui a été très bonne et puis, on continue notre petit bonhomme de chemin.
Vous aviez des ondes positives depuis le début de la semaine, depuis que vous étiez focus sur ce 16e de finale retour?
C'est toujours difficile d'avoir des ondes positives, mais en termes de préparation, on a donné beaucoup de force aux joueurs et à l'équipe pour qu'ils soient convaincus qu'ils pouvaient réaliser cet exploit. Et puis, je le disais, d'un point de vue de l'approche du match, de l'approche tactique, ça a été très bien réalisé par Julien, Stéphane et par son équipe. Donc, il faut aussi leur rendre un grand coup de chapeau. Donc, je suis très heureux aujourd'hui pour les joueurs, pour le staff, pour tout le club, parce que en arrivant, je l'avais dit, il n'y avait pas de promesse sur des résultats, mais ce que je voulais, c'est qu'il y ait vraiment une ADN qui change et qui aille chercher plus de victoires, une culture de la gagne, et qu'on ait un niveau d'exigence qui soit plus important. Et quelque chose qui paraissait probablement impossible pour les supporters du Stade Rennais il y a probablement un an, et ben on l'a fait rapidement. Maintenant, il faut continuer. On est heureux d'être en huitième de finale, mais on a dès dimanche un match très important contre l'Olympique de Marseille.
Voilà, Olivier Létang, qui a un timbre de voix qui rappelle quand même furieusement celui de Jean-Michel Aulas.
Même dans le discours. Même dans le discours, à nous répéter sans cesse. Alors, on ne sait pas ce que fera Aulas avec Genesio, mais
putain, merde, sur le pari là,
tu te sens pas bien.
On a jusqu'à quand pour changer d'avis là, dans le pari?
Ding dong.
Ah non, là-dessus, je mets pas la mallette. Non, là-dessus, y a pas de mallette.
Bah, de toute façon, c'est trop tard maintenant. Il est passé une fois, il peut passer deux fois.
Hein. On va dire une connerie. Je peux faire me taire.
Oui, tais-toi. Petite info pour conclure. Kylian Mbappé a tweeté aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu ça. Le but hier contre son camp d'Hilton sur l'action là.
Ah oui, Mbappé
but, il dit ouais. Messieurs de la Ligue, on fait comment pour le quatrième but? Offrez-le moi pour privilégier l'attaque. Et surtout, en plus, ça enlèvera le CSC d'Hilton. Et la Ligue a dit non.
C'est marrant, il permet des trucs.
Franchement, il est dans une grande forme.
Je pense que Jérôme aurait pu le faire, ça, s'il avait eu Twitter quand il jouait.
Bon, attends, mais ça, c'est mon regret. Mais je me serais régalé.
En même temps, il y avait cette partie-là où tu te serais éclaté. Il y a l'autre partie où tu serais fait incendier à mort. Et
C'est la partie où je suis là. En ce moment.
Mais Mbappé, franchement, ce gars est sidérant à chaque fois. Il est, je sais pas, tout ce qu'il fait est quand même assez bluffant.
Mais là, il a passé un cap.
Ouais, vraiment. Ouais.
C'est fini pour ce soir. Son Excellence Fred Hermel, merci beaucoup.
Adios et bravo Rennes.
Bonne soirée. L'after sera là demain après la Ligue 1, bien sûr. Demain soir, il y a quoi en Ligue 1? Gros choc, qui j'ai fermé?
C'est Strasbourg, ça.
Strasbourg-Lille.
Oh, mais oui, c'est un gros choc, Strasbourg-Lille.
Et par contre,
avant
la finale, il faudrait se remettre à gagner quand même, parce que là, vous êtes.
Bon, Lille, on les a battus en Coupe de la Ligue chez nous.
Oui, mais bon, j'ai vu le camp Strasbourg, ça doit pas te rassurer quand même.
Ah oui, bon, ça, c'est toujours un plaisir à Roland.
Guingamp, quand même. Mais moi, je sens bien Guingamp.
Guingamp qui gagne une coupe contre vous.
Bah, non, c'est que contre Rennes qui gagne Guingamp.
Depuis que Titi Loret, il s'est lâché.
Mais t'as vu le nombre de Rennais qu'il y avait à Séville?
Plus de 3
000. Franchement, c'est génial.
Notre ami Antoine Bière, là,
ce club bouge.
Tu te souviens?
Ah, bah, évidemment, il était.
On devrait le faire revenir, tiens. Allez, bonne nuit à tous. Bravo à Rennes. Et à demain soir dans l'After.
RMC Football Show. L'After Foot.